Actu SF. Les podcasts.
Bonsoir. Donc, nous sommes ensemble pour la conférence Réinventer les personnages historiques et en faire des romans. Donc, cette année, on a un cadre qui s'y prête tout à fait au niveau des sièges, parce que là, on est vraiment dans des sièges quasiment royaux. Et ça tombe bien, puisqu'on va parler, entre autres, de Louis XIV avec Joan Elliott et d'Elisabeth Ier avec Marie Brennan. Donc, je vais vous présenter les auteurs et leurs livres pour cette conférence. Donc, Marie Brennan, à ma droite, pour le tome 1 de La Cour d'Onyx, Minuit, jamais ne vienne, publié en France chez La Talente. Jean-Laurent Del Socorro pour Boudica, paru chez ActuSF. Et Joan Elliott pour le premier tome de Grand siècle, L'Académie de l'Éther, paru chez Mnemos. Alors, chez Marie Brennan, on est à la cour d'Elisabeth Ier, en Angleterre. Le récit commence en 1554 avec une jeune princesse enfermée par sa demi-sœur couronnée Marie la catholique et Elisabeth Ier a 21 ans. Et le récit se termine en 1603 pour l'épilogue, date de la fin de vie d'Elisabeth. Ensuite, chez Jean-Laurent Del Socorro, c'est très différent au niveau de l'époque, puisqu'on suit en fait la vie de la jeune princesse Hyssène Boudica, de sa jeunesse à sa fin de vie, au premier siècle de notre ère, dans une Angleterre aussi, mais qui est sous conquête romaine. Et enfin, chez Joan Elliott, on est en France, au XVIIe siècle, et c'est une France un petit peu différente de la nôtre, puisqu'une météorite a atterri et elle est douée de conscience et elle cherche à repartir dans l'espace. Je l'appelle une météorite, mais vous pourrez corriger le terme évidemment tout à l'heure. Elle cherche à repartir. Et en fait, son problème, c'est qu'elle a besoin d'une technologie qui soit beaucoup plus avancée que ce qui existe au XVIIe siècle en France. Et on va rencontrer notamment dans le texte Blaise Pascal, donc mathématicien et philosophe, et bien sûr Louis XIV. Alors, avant qu'on se penche plus en détail sur vos textes, je voulais vous demander à tous, quel est votre rapport avec l'histoire comme discipline? Est-ce que c'est un goût? Est-ce que c'est vos études? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comme vous voulez.
C'est un peu des deux. Un goût, alors en fait, ma première rencontre avec l'histoire, c'était déjà aussi une rencontre avec de la fiction, puisque quand j'y réfléchis quelques années après, c'est par le cinéma, c'est par les films de KPDP, les films de pirates ou les péplums. Voilà. Et depuis tout petit, j'ai dévoré ce genre de films qui déjà malmenaient l'histoire. Et je pense que quelque chose s'est ancré là. Et ensuite, effectivement, quelques années après, j'ai poursuivi des études d'histoire. Je m'étais à l'époque spécialisé plutôt au niveau de l'Antiquité et de la Rome antique, d'ailleurs. Ce qui explique que dans d'autres de mes livres, je fais intervenir beaucoup de légionnaires romains. Et ce qui me ramène donc à ces péplums que je voyais aussi petits. Voilà, je pense que tout est parti de là, en fait.
Jean-Laurent Del Socorro.
Alors moi c'est vraiment davantage par goût, parce que je n'ai ni une formation d'historien dans mon cursus initial, ni par la suite je ne me suis formé à l'histoire. Donc à chaque fois effectivement c'est d'abord par goût personnel, je découvre une période, je découvre un personnage historique, comme ça l'a pu l'être pour Boudica. Je ne connais pas, je me renseigne, je creuse, et tout d'un coup, voilà, le jeu de l'intérêt personnel va faire me dire que, en fait, il y a même une matière pour aller plus loin, et ça débouche sur un roman par la suite.
For me, it's much the same. I don't have any formal training in history. In college, I majored in archaeology and folklore. I did take some history classes, but it was scattershot, it wasn't what I was majoring in. But similarly, it's that I will find some person or some detail in history that really catches my imagination, and then I go do piles and piles and piles of research. I joke that the Onyx Court books were my home doctoral degree in English history. And doing the reading, my brain is constantly looking at details and going, well, what could I do with this? Would that make an interesting scene, or how can I build this into the conflict? So it kind of grows outward from that seed of whatever first caught my attention. But it is all being done in a very amateur fashion. I'm not a card-carrying, certified historian or anything like that.
Alors moi, c'est un peu la même chose. Je n'ai pas vraiment suivi d'études d'histoire. J'ai étudié le folklore et l'archéologie, mais l'histoire. J'ai suivi quelques cours d'histoire, mais c'était pas ma matière principale. Alors de la même façon, je vais m'intéresser à un personnage historique ou à un détail de l'histoire, et là, c'est mon imagination qui va prendre le dessus. Et après, je vais faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de recherches. Souvent, je plaisante en disant que la cour d'Onyx, c'est un peu mon. J'ai fait un doctorat en histoire pour l'écrire. Et effectivement, je vais m'attacher à des détails de l'histoire et me dire, bah voilà, est-ce que je pourrais mettre ça en scène dans mon roman ? Et donc, c'est quelque chose qui, à l'origine, dans l'histoire, a attiré mon attention. Et après, j'ai travaillé dessus par moi-même. Mais j'ai vraiment un statut d'amateur. Je suis absolument pas, j'ai pas de diplôme d'historien.
Et qu'est-ce qui, pour cette histoire, alors, à quel détail a captivé votre attention, alors ?
It was actually Elizabeth I herself, because she is a fascinating figure to me in English history, partly because in reality she was mythologized so much, like in her lifetime, which they did on purpose because there wasn't a lot of precedent for there being a ruling queen with no husband. And so in order to help legitimate and cement her power, what they had to do was build her up into this larger-than-life figure and build all of these ideas around her. And on the English copy of the book, there's a kind of tagline for advertising of a great light casts a great shadow. So as Elizabeth, I'm sorry, I'm going to make you translate that, aren't I? We had been discussing this earlier. The idea that Elizabeth was Gloriana, that she was this radiant figure in English history, and so I came up with the idea of her having this dark mirror in Vidiana, this fairy queen who is equally powerful but extremely cold and ruthless in some ways that end up influencing Elizabeth.
Donc effectivement, moi je suis partie du personnage Elisabeth Ier, qui pour moi est vraiment fascinante, parce que même de son vivant, on en a fait un espèce de mythe, et c'était vraiment fait exprès parce que on n'avait pas encore eu le cas d'une reine qui ne s'était pas mariée, et du coup ils ont vraiment voulu en faire comme ça ce personnage un peu plus grand que nature. Et donc dans le roman, il y a une phrase que j'ai demandé à ma traductrice de traduire tout à l'heure et qu'elle n'a pas su faire. Et donc, en gros, c'est une grande lumière projette une grande ombre. Et donc, c'était vraiment l'idée que la reine était vraiment ce personnage qui rayonnait. Et je voulais lui donner un miroir dans l'ombre. Donc, Invidiana, une autre reine qui, elle, par contre, est très froide et qui va beaucoup influencer le règne d'Elisabeth Ier.
Alors, pourquoi Boudica, du coup ? Pourquoi ce personnage ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette légende ?
Alors justement, parce que ce n'était pas une légende, parce que c'était un personnage historique. Je suis tombé un peu par hasard sur un article qui traitait d'elle. Boudica, Boadicé, ça me disait quelque chose. Je commence à gratter, je dis quand même, elle est inscrite dans l'histoire romaine. Elle a failli mettre les Romains hors de l'île d'Angleterre, donc c'est quand même une personnalité hyper forte. On continue à gratter, on se rend compte qu'elle a rasé Londres pendant sa révolte, à tel point que réellement, en géologie, on a une couche Boudica dans les caves de Londres qui est en fait la couche noire de cendres, donc elle a bien rasé. On se dit quand même, c'est fou, il y a sa statue à Londres, c'est un symbole de révolte pour les Anglais, et même ça va plus loin, elle a une aura mystique parce qu'elle est censée garder le monde pour les Anglais. Boudica, Boadicé garde le monde mystique en fait du royaume d'Angleterre, juste pour la petite histoire, à tel point que J.K. Rowling lui rend hommage, parce que je ne sais pas si vous le savez, pourquoi on utilise le 9 3/4 de Charing Cross pour aller à Poudlard, tout simplement parce que la légende dit que Boudica, passeuse vers le monde de l'au-delà, est enterrée entre le quai 9 et 10 de Charing Cross. Donc il y a vraiment un imaginaire, une référence mystique, une histoire incroyable, et en fait en France on n'en entend pas parler. Donc du coup je retrousse mes manches, je vais voir ce qu'il y a, peu de texte, et du coup ça a été un travail moins historique en fait qu'archéologique. J'ai travaillé avec un archéologue pour voir voilà quelles étaient les théories, d'où elle avait pu venir, parce qu'on a des traces que d'elle à partir de 20 ans en fait. Donc quelle avait pu être sa jeunesse, d'où elle est venue. Donc ça a été en fait la quête du personnage historique en fait. Et, qui a été à l'origine du roman.
Effectivement, on verra que pour vous, c'est très différent des deux autres personnages qui sont extrêmement documentés, Louis XIV et le règne d'Elisabeth Ier. Effectivement, vous avez dû inventer, on va dire, sans doute plus pour combler les manques qui sont sans doute très importants par rapport à Boudicca. Joanne Elliott, pourquoi Louis XIV? Pourquoi Blaise Pascal?
Alors, en fait, Louis XIV, c'est tout bête. Je voulais revenir à l'Uchronique, un genre donc, que j'apprécie particulièrement. Et la première question que je me suis posée, donc, avant de me lancer dans ce cycle, ce sera une trilogie, c'est bon, à quelle époque et à quel personnage je vais m'intéresser. Et j'ai vite constaté que dans la littérature de l'imaginaire, alors autant on a exploré le 19e siècle en long, en large et en travers, l'Antiquité sous toutes ses formes, le Moyen-Âge ou le pseudo-Moyen-Âge en fantasy, mais le 17e siècle et la figure de Louis XIV est il y a deux ou trois exceptions près, mais enfin globalement ignorée dans le genre de l'imaginaire. Donc c'était la première raison. La deuxième raison, alors je suis par ailleurs passionné par l'histoire réelle de la conquête spatiale, et il faut savoir que le thème du livre, c'est en gros, je veux raconter une forme de conquête spatiale sous le siècle de Louis XIV. Et j'ai aperçu que la durée totale du règne de Louis XIV, donc le roi qui a le plus longtemps régné, à peu près 65 ans, ça correspond à peu près au laps de temps qui sépare les premiers essais des frères Wright, quand ils ont essayé de faire voler sur quelques mètres un avion de toilette papier, le premier pas de l'homme sur la Lune. Donc voilà, je suis parti de cette idée, je me suis dit finalement il s'est passé la même durée, donc je vais raconter sous le règne complet de Louis XIV une forme de conquête spatiale. Voilà d'où est partie cette ambition. Ensuite donc, j'en viens à la deuxième partie de la question, pourquoi Blaise Pascal? Il me fallait quelqu'un qui puisse initier la technologie indispensable il me fallait quelqu'un qui puisse initier la technologie indispensable à une forme de conquête spatiale. Et là, l'histoire m'a offert clé en main, si je puis dire, Blaise Pascal, qui est dans la réalité l'inventeur des premières machines à calculer, les pascalines. Donc de là à les faire devenir des premiers ordinateurs qui ont permis ensuite de fabriquer des choses plus compliquées. Enfin voilà, l'histoire m'a tout fourni, je dirais. Bien sûr, j'ai dû intégrer l'intelligence artificielle dont vous parliez en préambule. Il a fallu un petit coup de main extraterrestre quand même pour initier les choses, mais ensuite tout le monde était là, tous les personnages étaient là, livrés par l'histoire, il n'y avait plus qu'à dérouler le fil. Voilà.
Et quelle a été la masse de recherche que vous avez faite alors pour le
Alors justement, j'essaie de me freiner parce que le piège autour de tels personnages, ce serait de se noyer dans une documentation. C'est vrai, il existe des centaines et des centaines d'ouvrages de référence. Je me suis limité, par exemple, pour autour de Louis XIV, le dictionnaire Louis XIV, par exemple, et à ses entrées, m'ont satisfait. Pour Blaise Pascal, une biographie, je ne sais plus l'auteur, là, ça m'échappe un petit peu. Mais enfin, voilà, je me suis limité à quelques éléments biographiques. Et ensuite, plutôt des ouvrages généraux sur sur la vie quotidienne dans les années 1650, par exemple, puisque quand le livre commence, on est vraiment dans la réalité. La partie science-fiction arrive plus tard. Donc il fallait que je puisse décrire la réalité de différentes strates sociales. Les héros principaux aussi sont une famille de jeunes paysans qui arrivent du duché de Lorraine. Et donc voilà, il fallait qu'il fasse vrai. Donc voilà, j'ai plutôt essayé d'aller voir du côté de certains chroniqueurs aussi quand même de l'époque pour m'inspirer d'un vocabulaire voilà, plutôt ce genre de choses, mais voilà, avec le risque de se noyer parce qu'il y a une telle avalanche de documentation sur cette époque que j'ai dû au contraire me freiner.
Marie Brennan, comment avez-vous fait le choix? Alors vous avez dit que vous aviez énormément de matière, mais à un moment où vous devez faire un choix sur ce qui est quand même utile pour vous au niveau de la recherche historique. Comment avez-vous fait ce choix?
It is true that it's difficult. You can easily bury yourself under a mountain of facts and lose track of your story in so doing, or just use it as a way to procrastinate of, oh, I can't start writing yet. I haven't yet figured out what style of footwear was in fashion that summer. You can use it for a long time to put off actual work. And for me, what it was is that I had a fairly clear idea of what the story I wanted to tell was. And so by holding on to that, I could figure out what details needed to be brought in and what didn't. And there was a certain amount of, I could steer my story towards things that I thought were particularly cool and make a reason to have them in the story. But you know, I feel like the research, the job of that was to kind of map the field for me, and then I could choose a path to walk through it, rather than feeling like I needed to hit every single blade of grass on my way to the end of the story.
Alors c'est vrai que c'est assez difficile parce qu'on a très vite fait d'être enterré sous tout un tas de documentation et de perdre complètement son histoire. Ou alors c'est un très bon prétexte pour la procrastination, c'est-à-dire « Oh ben non, ben, je ne peux pas écrire aujourd'hui parce que je n'ai pas encore cherché ce qui portait comme chaussures à l'époque. » Donc bah non, je peux pas. Donc moi personnellement, j'avais vraiment une bonne idée de l'histoire que je voulais écrire et j'essayais de m'y tenir. Du coup, j'avais besoin de certains détails que j'allais chercher. Après, quand je faisais des recherches et je trouvais qu'il y avait un détail qui était cool à l'époque, bah, du coup, j'essayais de me débrouiller pour que ça rentre dans l'histoire quand même. Mais en fait, mes recherches pour moi, c'était vraiment une façon de cartographier un peu le monde et après choisir un chemin sur lequel avancer plutôt que d'essayer de marcher sur chaque bout d'herbe de la carte.
It was both helpful and dangerous to me that I had access to a very good university library while I was writing these, because then all kinds of historical things available to me, but it did trigger the impulse of, but I must know everything. I found at one point a book that listed every single alderman, which is a type of city councillor, every alderman in the city of London from, I think, the 12th century onward. Which meant I could look up exactly who was the alderman of each part of the city of London in the year that I was writing. And that was the point where I just thought, no, put the book down, back away. Nobody is going to point out that you got it wrong if you name somebody who wasn't really an alderman in that year.
Alors ça m'a à la fois aidé, ça a été très dangereux pour moi qu'à cette époque, j'avais accès à une bibliothèque d'université qui était très bien fournie. Et bah, du coup, j'avais un peu l'impression qu'il fallait absolument que je sache tout sur cette période. Et un jour, j'ai trouvé un livre qui répertoriait tous les conseillers de la ville à partir du XIIe siècle, donc de la ville de Londres. Et je me suis dit, oh, c'est génial, comme ça, je peux vraiment avoir le bon nom, mais pour chaque partie de Londres et tout. Et là, je me suis dit, non, je vais m'arrêter là. Personne ne saura si je ne mets pas le bon nom de conseiller. Il y a un moment, il faut aussi savoir s'arrêter.
Jean-Laurent Del Socorro, pour Boudica, est-ce que vous avez utilisé des sources romaines, enfin des récits latins? Est-ce que vous avez parlé d'archéologie? Comment vous avez travaillé du coup? Est-ce qu'il y a des thèses, je ne sais pas, sur Boudica?
Alors il y a quelques textes universitaires, donc de sources anglaises. Les principales sources ont été romaines, il y en a deux, parce que c'est les deux fois où elles sont citées. Par Tacite et dans un autre texte qui est Agricola, de mémoire. Voilà, sur un récit qui donne en fait les éléments d'où elle apparaît, c'est-à-dire elle est déjà adulte, elle est déjà reine, donc à l'âge adulte, et le détail de pourquoi elle est à l'origine de cette révolte, à savoir qu'elle va être à la mort de son mari, son époux. Le régime romain en place ne va pas respecter son agrément, va tenter de prendre le pouvoir sur le royaume mycène. Évidemment, elle va s'y opposer. Elle va être fouettée en place publique, ses filles vont être violées, voilà, il va y avoir des exactions vis-à-vis d'elle et de son peuple. Et voilà, c'est ce qui va faire que du coup, elle va prendre les armes et se révolter. Donc on a ces éléments-là. En fait, on a la fin du récit qui, en fait, qui est plutôt convergent. On a plutôt les éléments, même par rapport au fait d'armes militaires. Enfin, voilà, on peut retrouver un peu ce qui s'est passé, ce qu'elle a rasé, où elle a perdu, ainsi de suite. Mais finalement, il y a quand même une grosse hypothèse, c'est cette personne qui va arriver à la fin, de 1 à 20 ans, pour faire court, qui c'est? Et là, on s'est penché sur l'archéologie et certains spécialistes, notamment anglais de la zone, qui ont vraiment, vraiment vu comment ils vivaient, quelles étaient les ressources, qui ont émis un certain nombre d'hypothèses sur qui elle a pu être avant. Et il a fallu en fait que je prenne une de ces deux hypothèses, que je l'étire et que je la fasse valider par quelqu'un. Les deux hypothèses étant, elle aurait pu être, ce qui a été le choix du roman, elle-même héritière, parce qu'on pouvait être héritière d'un titre chez les Icène, elle-même reine, et donc voilà, une alliance de clans se met en place. Ou elle aurait très bien pu être soumise, enfin les Icènes sont soumis par un autre clan, elle est la prise de guerre, et pour justifier la prise, voilà, elle était soumise et mariée de force. Donc c'était des choix quand même radicalement différents, qui historiquement, personne ne peut affirmer ou confirmer l'un des deux, c'est peut-être une troisième voie en plus, c'est les deux qui sont là. Donc c'est en prendre une, c'est une reine qui a les pleins pouvoirs, voilà, d'où elle hérite, on voit les noms qui sont à côté, et on émet une hypothèse, en creux en fait, des théories qui sont ça, et tout ça est validé. Et là encore pour la petite histoire, le premier jet du texte, en fait, a été en partie invalidé par le relecteur historique, qui m'a dit, voilà, il y a des choses, c'est pas possible, qui étaient plutôt assez fondamentales dans le texte, et par des relecteurs qui avaient une connaissance, on va dire, du monde celte, qui, notamment, au vu de certains choix, j'allais dire, dramaturgiques, aussi ont invalidé certains passages, enfin, ont émis des grosses réserves sur des passages ou des approches que j'avais du monde celte. Et là, on revient à la copie. Donc oui, c'est très différent de mon roman précédent, parce qu'en fait, c'est comment faire valider une théorie plausible par un historien, enfin là par un archéologue.
Et du coup, on suit toute sa formation, son apprentissage, son éducation. Là-dessus, vous avez donc inventé, on va dire, mais fait vivre le personnage aussi grâce à ça.
Alors après, ça a été un truc qui est intéressant, c'est-à-dire on savait que c'était le clan le plus puissant, parce qu'on sait que les Icènes étaient les plus puissants parmi un des plus puissants et des plus riches. On sait que c'était par rapport à la richesse, leur orfèvrerie. Donc là, on arrive à tirer des liens. Okay, c'est l'orfèvrerie. Il y a des particularités a priori qui étaient données chez les Icènes. On sait qu'ils se battaient au bouclier et que c'était les femmes qui initiaient les plus jeunes aux armes. Donc les femmes étaient initiées très tôt aux armes. Donc pareil. Donc du coup, Boudica, ben, très clairement, elle est initiée aux armes très tôt. Elle est initiée au bouclier et ça donne tout de suite cette couleur-là. C'était peut-être pas ça, c'est très plausible quand même sur les théories. Et c'est à ce moment-là en Angleterre. Vous descendez de l'autre côté de l'île ou même en Gaule, on est sur des choses totalement différentes. On est en retard par rapport, entre guillemets, à la Gaule. On a encore des combats, par exemple, qui sont faits sur des chariots de guerre, ce qui n'existe plus en Gaule. Donc voilà, il y a plein de petites spécificités qui font que, ben, en fait, en creux, sans dire, voilà, on va commencer à pouvoir créer le personnage à travers des habitudes sociales, des habitudes techniques, et ainsi de suite. Ouais.
Et comment est-ce que vous avez travaillé sur les sources historiques ? Est-ce que vous avez travaillé avant sur l'histoire, la grande histoire ? Est-ce que vous avez travaillé votre histoire à vous, Joanne Elliott, pendant que vous pendant que vous faisiez vos recherches historiques ? Un peu des deux, comment ça s'est fait ?
Non, j'avais déjà une trame générale, même de la trilogie. Donc, comme je disais tout à l'heure, je savais qu'on allait accompagner tout le règne de Louis jusqu'à sa fin. Et je savais quels étaient les... Je respecte quand même les jalons historiques. Le tome 1 tourne particulièrement autour des épisodes de la Fronde, enfin de la deuxième Fronde, plus exactement. Et donc voilà, j'avais posé comme ça quelques jalons historiques. Et ensuite, effectivement, je suis allé un peu plus me documenter sur ce dernier. Mais voilà, mais c'était tout d'abord mon propre récit avant de suivre strict, enfin, au sens strict celui de l'histoire, plus exactement. Voilà.
Marie Brennan.
All three. A good chunk of it before, because actually this book grew out of a role-playing game that I had run where I took the characters kind of backward through English history, and one segment of it was set in the Elizabethan period. So I had done some research for that, and that's actually where the characters of Invidiana and Tiresias came from. That was part of what was happening in that section of the game, so I decided to take that and take the characters that my players had been playing, move them out of the story because they weren't mine, and take this stuff about Invidiana and Tiresias and turn that into its own story. So I'd already done some of the research as part of running that game, and then I did a bunch more reading, not only on events of the period, but a great deal on just the daily life and what was it like to live in Elizabethan London. But there was never a point where I said, I am now done with my research and will begin writing. I kept on researching things all the way through because I didn't know everything I was going to need. I I found myself writing one of the flashback scenes where it shows the moment of Elizabeth's coronation and what Invidiana was doing at the time. And when I started writing that, I realized, could I find out? I needed to know the route that her coronation procession had taken. And God bless the internet, because it's like 2 o'clock in the morning, I write late at night, and I go online and I can find the exact route that Elizabeth's coronation procession took in the 16th century. It's right there on the internet. So I don't know how I could have written things like this before we had Wikipedia and other such wonderful things to get us started on the research. So yeah, throughout the book, there were always things where I would stop and go, oh, wait, I just took my characters to this location. I need some more details so I can describe it properly. And then even into revision as I was cleaning things up, going, wait, I don't think I actually looked into that. Let me check my facts before I say that this is done.
Alors, un peu détroit. J'avais fait déjà pas mal de recherches avant de commencer à écrire, mais en fait, le roman vient aussi d'un jeu de rôle qui se passait en partie à l'époque d'Elisabeth la première. Et du coup, il y avait ces personnages qui étaient secondaires dans le jeu, notamment Invidiana. Et j'ai voulu lui donner sa propre histoire. Mais j'ai continué à faire des recherches par la suite parce que je voulais savoir comment on vivait à l'époque la vie de tous les jours. Et il y a absolument pas un moment où je me suis dit, bon, voilà, j'ai fini mes recherches, je m'arrête. J'ai continué à faire des recherches pendant l'écriture, tout simplement parce que je ne savais pas ce dont j'aurais besoin quand j'ai commencé. Et notamment, il y a un moment dans le roman, un flashback, où on voit le couronnement d'Elisabeth. Et du coup, j'explique ce que fait Invidiana pendant ce temps-là également. Et je me suis dit, oui, je voudrais bien savoir par où est passé son cortège le jour du couronnement. Et là, merci mon Dieu pour Internet. À 2h du matin, parce que j'ai tendance à écrire assez tard, je suis allée sur Internet, j'ai cherché quelle était la route du cortège du couronnement au XVIe siècle pour Elisabeth. Je ne sais pas comment j'aurais fait avant. Sans Internet, ça aurait été compliqué, parce que je l'ai trouvé tout de suite. Et j'ai continué à faire des recherches à travers l'écriture, parce que parfois, quand j'amenais mes personnages dans un endroit particulier, je me disais, oui, mais alors là, il me faudrait peut-être quelques détails supplémentaires sur cet endroit. Et même en relisant, en corrigeant une dernière fois le roman, parfois, j'arrivais à un moment du roman et je me disais, mais attends, est-ce que j'ai bien fait des recherches sur cet endroit-là? Donc j'y retournais encore, même au dernier moment.
Jean-Laurent, est-ce que vous voulez un petit peu compléter? Vous nous avez parlé du fait que vous aviez eu un retour négatif et qui vous avait obligé à reprendre le roman. Est-ce que vous avez aussi fait des recherches avant, pendant
Il y a un moment où il faut que le romanesque reprenne le dessus. C'est un peu ce que disait Marie Brennan par rapport à ça. Voilà. Il y a tellement de matière. Alors là, c'était un peu différent, mais parfois, il faut s'en écarter. Donc c'est vrai, on revient à la copie, on la reprend. On la revalide, mais j'allais dire la recherche se fait chez moi avant, pendant, mais sur la finalisation, je reste sur le sens du texte. À un moment, il y a une écriture sur les personnages, à un moment, il y a une dramaturgie, à un moment, il y a une liberté romanesque. C'est pas un traité justement d'histoire, et donc je pense que ça doit reprendre la part du dessus. Justement, il y a presque un travail même de vulgarisation pour se dire, ok, là, est-ce qu'il y a des choses qui restent, qu'est-ce que je veux qui reste accessible pour tout le monde, et qu'est-ce que je veux en fait que je veux pas lâcher, parce que c'est des éléments qui me semblent pertinents et dans le roman et pour la cohérence du récit, de garder parfois un petit peu rude, comme parfois il y a des listes de termes qui sont un peu secs, voilà. Mais je pense que la recherche, elle se fait en amont, sur un premier jet, et puis je l'utilise pour préciser 2-3 choses, mais je m'en écarte sur l'écriture finale.
Oui, juste pour préciser, je pense que voilà, c'est tout à fait important ce que tu disais, ça reste des fictions, et moi ce qui m'intéresse, c'est que le lecteur, au bout du compte, il n'arrive pas à repérer ce qui est la part d'histoire, de la part d'invention de l'auteur. Bon, enfin, à part les extraterrestres, là, d'accord, je veux dire, on est clair. Mais pour le reste, voilà, il y a plein de choses, effectivement, je ne suis pas allé chercher en détail dans des documents historiques, donc que j'ai inventé par rapport à ce qui me paraissait cohérent de ce que je savais par ailleurs. Et donc, il y a plein de petits détails, je revendique seul la paternité, d'autres qui pourront paraître très bizarres, biscornus, mais qui sont en fait la réalité historique. Voilà. Mais j'aime bien finalement que le lecteur ne puisse pas savoir lesquels relèvent de quoi en fait.
Et dans chacun des textes, vous avez intégré l'imaginaire, et c'est une composante très intéressante de vos romans. Chez Marie Brennan, en fait, il y a une cour parallèle à celle d'Elisabeth Ière, qui est la cour d'Invidiana, et c'est une cour des fées. Alors, je ne sais pas si on dit fae ou fée.
C'était une question à toi.
Désolée, donc là c'est une question de prononciation en français. Je n'ai pas, je n'ai aucune connaissance là-dessus particulière. Hein. Je m'excuse.
En fait, on comprend dès le prologue de la cour d'Onyx que les deux futures reines, puisqu'elles ne sont pas reines encore, enfin, Elisabeth n'est pas encore reine, elles passent un pacte pour justement se soutenir l'une l'autre. Est-ce que c'était difficile d'ajouter encore cette couche supplémentaire, cette couche d'imaginaire à une réalité historique déjà chargée en documentation?
So when you're doing historical fiction or historical fantasy, there's a couple different modes that you can be working in. For example, if you have aliens showing up in the 17th century, you're clearly in alternate history. It is things were going down a different path than they did historically. What I was trying to do with these books is what you might call secret history instead. And that's the idea where I was trying to keep the facts that we know as undisturbed as possible, but then to add in this other layer. And to find places where I could slip it into the cracks. And part of the reason that I did that is just because I think it's fun. But also, I didn't want my fairies taking agency away from what human beings actually did, from the decisions that real people made. I wanted to respect the real people in history. So I looked for places where I could add that layer and have it do something meaningful without warping the things around it. One of the places this was easy to do was don't know if it gets called the Spanish Armada in French, but the attack that Spain made on England, where there's a whole lot of factors that led to why the Armada was defeated, and some of them were things that people had done, like Sir Francis Drake had attacked the Spanish fleet at one point, which was part of the reason they were very badly prepared. But one of the things that happened was that they ran into some amazingly bad weather. There were these storms, and so I go, okay, storms, that wasn't anything a human being did, but it could easily be something that the Fae did. And that was a place where I could say, yes, the Fae actually arranged to help defend England by making these storms happen. But then there were other things like Elizabeth's decision to execute her cousin, Mary Queen of Scots, who had been a prisoner for years on end, and there was a lot of back and forth of should she be killed, should she be kept prisoner, and keeping her prisoner was very dangerous because there were many attempts to start rebellions around her. And with Elizabeth changing her mind over and over again, I thought, well, if she had this other queen who is completely ruthless, constantly urging her towards execution, but Elizabeth herself has these doubts, then I'm not taking away Elizabeth's own, you know, choices in the way that she behaved, but I can say there was this factor that was pushing her in one direction. So I was looking for those kinds of things where I could have the Fae influencing history without it turning into a different history than the one that we know.
Alors, je pense que quand on écrit de la fiction historique ou de la fantasy historique, il y a différentes façons de s'attaquer à ce mode d'écriture. Si, par exemple, des extraterrestres débarquent au XVIIe siècle, c'est de l'histoire alternative. C'est clairement pas ce qui s'est vraiment passé. Moi, j'étais plus partie sur de l'histoire secrète, c'est-à-dire qu'on essaye de garder les faits sans y toucher, enfin le moins possible, on rajoute une autre couche à l'histoire, donc l'histoire des faits, qu'on essaye de rentrer dans les choses qu'on ne connaît pas de l'histoire ou qui, pour expliquer certaines choses. Alors moi, ça m'amusait de faire ça comme ça. Après, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que les faits n'aient pas suffisamment d'influence, c'est-à-dire je voulais respecter quand même les choix des personnages historiques. Et là où c'était le plus facile à mettre en place, c'était notamment avec la Spanish Armada. Alors, je ne sais pas s'il y a une traduction en français. L'invincible Armada. Voilà, je l'ai étudié qu'en anglais, désolée. Et donc savoir pourquoi, comment les Britanniques avaient vaincu. Donc il y avait effectivement l'aspect humain avec Francis Drake qui avait attaqué l'Armada, mais il y avait aussi des tempêtes. Et ça, le mauvais temps, techniquement, ce n'est pas les humains qui en sont la cause. Et je me suis dit que là, je pouvais amener les fées qui, elles, pouvaient peut-être, afin d'aider la reine Elisabeth, aider à défendre l'Angleterre, provoquer les tempêtes pour que ce soit les Anglais qui gagnent. Il y a un autre aspect où ça m'intéressait, c'est que Elisabeth a gardé en prison pendant des années Marie, la reine des Écossais, qui, alors la garder en prison, ça représentait un danger, hein, parce que du coup, il y avait toujours des risques de rébellion. Et elle a passé son temps à changer d'avis sur le fait de la garder juste en prison ou de la faire exécuter. Et je me suis dit que s'il y avait cette autre reine, la reine des fées, qui, elle, était beaucoup, beaucoup plus brutale, beaucoup plus violente, et que bah, Elisabeth elle-même avait des doutes, elle pouvait quand même avoir le choix, mais ça pouvait être l'influence de l'autre reine qui la faisait, justement, comme ça, changer d'avis régulièrement. Donc c'était vraiment, ça reste elle qui a pris sa décision à la fin, mais elle était influencée par la fée. Donc je voulais vraiment que les fées puissent avoir une influence sur le monde des humains, mais sans que ça change l'histoire en elle-même, l'histoire avec un grand H.
Dans Grand Siècle, l'imaginaire tombe du ciel ?
Ah ben tout à fait, ben, j'aurais pas pu mieux le résumer. Oui, voilà, on sait dès les premières pages, ça arrive très tôt, il y a cet événement, cette météorite donc, qui est en fait une sorte de capsule de secours dans laquelle une intelligence artificielle d'un vaisseau spatial d'exploration voilà, s'est éjectée suite à un accident. On le sait tout de suite. Voilà. Mais même si alors, l'histoire, elle va, à partir de là, certes, diverger, mais pas immédiatement. Parce que dans les premiers temps, de fil en aiguille, cette intelligence artificielle est amenée à Louis XIV, qui est assez intelligent pour saisir un petit peu les enjeux de cette chose. Comment il pourra l'utiliser à son profit. Et au début, il va la garder secrète. Donc, pendant encore un moment, l'histoire reste celle qu'on a connue et je me suis vraiment attaché à son fil. Et on est à la limite de l'histoire secrète dans le premier tome. Après, effectivement, ça va diverger complètement puisque Louis XIV va décider de mettre tous ses moyens, toute sa puissance dans ce projet de conquête spatiale et non plus, par exemple, il n'y aura pas Versailles, il n'y aura pas... voilà. Mais dans les premiers temps, il est encore très jeune, c'est encore un enfant au début, voilà, on est encore sur les bons rails de l'histoire, voilà. Si ce n'est que cet événement extraordinaire, mais qui est caché, et il y a eu très peu de témoins, voilà. Donc, et d'ailleurs, le témoin principal, un lieutenant de marine qui a assisté à l'événement, et c'est lui qui apporte l'objet à Louis XIV, finit embastillé avec un masque de fer, pour, voilà.
Ce qui est amusant aussi, c'est que cet extraterrestre, il a donc beaucoup d'avance sur les humains et vraiment, il trouve qu'ils sont vraiment très, très médiocres, quoi, quand même. Hein, et ça produit une distance très humoristique, quoi, parce qu'il parle un peu comme une personne du 21e siècle pourrait parler avec la différence temporelle.
Tout à fait, voilà. Et il observe, alors... Il est, enfin, je dis il ou elle, je ne sais pas s'il faut dire il ou elle, d'ailleurs, cela dit. Il les regarde avec un œil amusé, mais il est quand même content de trouver pour la première fois. Il explore depuis très 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 longtemps les systèmes solaires, notre galaxie, etc. Et c'est quand même la première fois qu'il trouve quand même une espèce intelligente qui a quand même développé une technologie, etc. Donc voilà, j'aurais quand même plus mal tombé. Mais effectivement, ce sont pour lui des espèces de grands singes à peine évolués, effectivement, voilà.
Il les appelle quand même des interfaces organiques carbonées.
Ah oui. Alors là, c'est le côté de cette logique. C'est une intelligence artificielle, donc il décrit, il ou elle décrit, techniquement ce qu'elle voit. Mais peu à peu, parce que, on le voit assez tôt dans le livre, il y a une fusion qui s'opère avec l'esprit de Louis. Peu à peu, il y a une sorte de respect qui va apparaître chez elle. Voilà, du côté de Louis, de grandes interrogations. Louis, elle va être assez intelligent pour savoir comment l'utiliser à son profit. C'était comme la réalité, c'était quand même loin d'être un imbécile, Louis XIV. Mais l'intelligence, elle, justement, va, par, par cette connexion avec l'esprit de Louis, si on veut, va réviser peu à peu son jugement aussi sur ces tas de carbone organisés qui ont un appareil directeur dans la tête, mais qui n'est pas encore très, très bien évolué. Voilà.
Chez Boudica, c'est peut-être un petit peu moins... Enfin, l'imaginaire est peut-être un peu moins évident, on va dire, par rapport aux deux autres textes, hein, je parle. C'est plutôt, on a l'impression, dans les rêves que fait Boudica, qui sont très importants pour elle au niveau de sa conduite. Est-ce que je me trompe ?
Non, c'est exactement ça. On est... Je voulais un texte... Je pense que là-dessus, je ne me suis pas trop loupé. Je voulais un texte, si vous ne voulez pas voir de fantastique dans Boudica, vous n'en verrez pas. Je laisse vraiment la parole au lecteur. Il y a un filigrane où les gens, dans le récit, ont l'air de croire à quelque chose. Ils disent les rêves sont prémonitoires. Ils décrivent parfois des rêves, mais ça reste des descriptions de rêves. Ça reste la vision d'une personne. Peut-être qu'elle est juste évanouie. Effectivement, qu'il y a peut-être quelque chose de psychanalytique derrière dans ses rêves ou quoi que ce soit. C'est peut-être juste des rêves. C'est peut-être un peu plus que ça. Quand les druides l'amènent effectivement sur le bord de mer, faire un peu son rituel d'initiation, ce qui se faisait, est-ce que c'est pas juste un rituel d'initiation où elle s'est évanouie, ou est-ce que ça a vraiment été un rêve prémonitoire ? Et je joue beaucoup avec ça, avec cette ambiguïté où finalement, la part elle est laissée au lecteur. Après, il y a des... effectivement, il y a peut-être des choses qui font dire que peut-être que ça marche vraiment. Il y a des rêves où quand même on se dit... L'homme, pour ceux qui l'auront lu ou qui vont le lire, l'homme sur la plage à tête d'aigle avec qui elle parle, est-ce que ce ne serait pas un des précédents empereurs qui a essayé d'envahir l'Angleterre ? Enfin, voilà, y a des choses qui peuvent faire dire, bon, quand même, ça semble très, très, très plausible que le surnaturel en fait existe. Mais là encore, si vous ne voulez pas le voir, en fait, c'est finalement peut-être que des rêves ou une vue mystique des personnages, mais sur lesquels vous n'êtes pas obligé d'adhérer.
Est-ce que s'attaquer à des mythes comme Louis XIV et Élisabeth Ière, ça ne vous a pas effrayé ? Parce que je vous sens assez prudent dans la façon de dire, voilà, vous n'étiez pas historien.
Oui, mais d'un autre côté, c'était ça aussi qui était plaisant. Si, je sais très bien qu'un véritable historien va hurler de page en page. Et quelque part, ça me fait plaisir aussi. Voilà. Ce qu'on disait tantôt, c'est clairement une fiction avant tout. C'est clairement de la science-fiction avant tout, de l'Uchronie, de la réécriture de l'histoire avant tout. Voilà. Donc, il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Mais au contraire, moi, je trouve plus la figure historique est imposante, plus je trouve intéressante s'y colter finalement.
Et comment vous avez réussi, parce que du coup c'est aussi l'autre difficulté, à donner de la chair à ces personnages.
Ah, alors je... Oui, j'ai essayé, par exemple, les scènes où Louis intervient, je me suis amusé à glisser, parce qu'il y avait beaucoup de chroniqueurs, on a ses paroles rapportées, je me suis amusé à glisser pas mal de ses propres paroles dans mes textes. J'essaie de trouver voilà, des petites choses en m'éloignant du décorum ou des clichés qu'on pourrait avoir, j'essaie de trouver des petites choses vraies sur lui pour essayer de lui donner cette part humaine. Enfin, surtout, au début, c'était plus facile parce que voilà, je le prends quand il est encore enfant, encore sous la tutelle de sa mère, de Mazarin, etc. C'est un enfant qui fait des cauchemars. C'est la période de la Fronde qui l'a vraiment traumatisé. Voilà. Donc il y avait de la matière humaine avec laquelle jouer pour tout de suite le rendre, pas forcément d'ailleurs sympathique, mais enfin, voilà, oui, profondément humain, quoi qu'il en soit. Parce qu'on garde avec le recul qui est le nôtre, la figure plutôt de Louis, enfin, du conquérant, du roi plutôt âgé, plutôt avec après tout le côté, toute l'étiquette et tout le solennel de Versailles, tous ces artifices qui l'ont éloigné finalement du niveau humain, qui en ont fait le roi soleil, qui en ont fait ce roi presque dieu incarné. Alors moi je le prends comme une jeune personne avec toutes ses failles au début du livre. Ouais, c'est ça qui m'intéressait aussi.
Marie ?
Yes, Elizabeth, I agree that sort of with the bigger, more famous figures, it's you've got more leeway. And God knows some of the stories set in Elizabeth's time have committed such character assassination on her that if I got some facts wrong, it's not nearly as bad as some other things out there. There was a movie a few years ago called Anonymous that I initially wanted to see it because it looked like such a beautiful visual representation of the period. And then I found out that not only does it push the idea that Shakespeare did not write Shakespeare's plays, the Earl of Oxford did, but the Earl of Oxford was Elizabeth's secret baby. I'm just like, no. So, you know, I may have gotten some details wrong, but I didn't write that. So, but I do try to either stick very close to what we know for sure about a historical figure or change it so obviously that nobody is going to mistake it for the reality. There was another movie a few years ago called Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Pretty sure nobody mistook that for actual historical Abraham Lincoln. You weren't meant to. But yeah, I do like trying to get into the human layer of the character and show something other than this very famous, iconic figure. I was sad that I had to cut one scene that I wrote early on in the draft of the book where it wasn't doing enough for the plot, but it had Elizabeth traveling somewhere and getting annoyed with her courtiers and just taking off on her horse because she loved riding and was very good at it. And one of the requirements for being a lady's maid to Elizabeth was you had to be able to keep up on a horse. If you were not good enough at riding, she had no time for you. And I just really liked that as this detail of her character, but sadly, the horse riding didn't do enough for the story, so it had to go.
Alors je trouve effectivement que finalement quand on prend des personnages plus connus, on a un peu plus de liberté, même parce qu'en fait on ne peut pas faire pire que, par exemple, il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, Anonymous. Donc au début je voulais le voir parce que apparemment c'est une belle description de l'époque d'un point de vue historique, mais alors non seulement ça disait que Shakespeare n'avait pas écrit Shakespeare, mais que c'était le comte d'Oxford qui l'avait écrit, en réalité. Mais en plus, ça disait que le comte d'Oxford était en réalité l'enfant caché d'Élisabeth la première. Donc là, non, ça allait un peu trop loin. Donc je peux écrire des bêtises, mais j'ai pas écrit ça, et c'est déjà bien. Donc moi, j'ai essayé vraiment de coller à ce qu'on connaissait vraiment, enfin ce dont on est sûr d'un point de vue historique, ou m'assurer que si je change un détail, ce soit suffisamment évident pour qu'on puisse pas me dire que je me suis trompée. C'est évident que je l'ai fait exprès. Donc, par exemple, il y a un autre film qui est sorti qui s'appelait Le chasseur de vampires Abraham Lincoln. Je pense que personne n'a vraiment cru que Abraham Lincoln était un chasseur de vampires. Là, c'est fait exprès, c'est évident. Et sinon, j'aimais vraiment aussi l'aspect d'essayer de donner une couleur humaine au personnage. Par exemple, il y a une scène que j'ai dû supprimer du roman parce qu'elle n'apportait pas assez à l'histoire, mais que j'aimais beaucoup. Une scène où Elisabeth voyageait et au bout d'un moment, elle en a marre, ça se passe pas comme elle veut et elle s'en va toute seule à cheval. Et apparemment, une des choses que ces dames de compagnie devaient savoir faire, c'était une obligation si vous vouliez être sa dame de compagnie, c'était savoir monter à cheval et être à la hauteur, c'est-à-dire pouvoir la suivre. Parce que comme elle adorait monter à cheval, elle n'avait aucune patience pour les gens qui n'étaient pas capables de la suivre, en fait. Donc ça, malheureusement, cette scène-là n'apportait rien à l'histoire, donc j'ai dû l'enlever, mais pourtant, je l'aimais bien.
Est-ce que pour ces textes, il y a eu d'autres influences que des sources historiques ? Parce que je sais que Marie Brennan parle du film Elisabeth, réalisé par Shekhar Kapoor, comme l'une de ses sources d'inspiration.
Yeah, that movie was part of what got me interested in Elizabeth in the first place because it does a really nice job of looking at how she got built up deliberately into this figure who could hold the throne. And I feel like it's a good example of something where some of the facts in it are wrong, but I feel like the spirit of it is fairly accurate to Elizabeth as I know her after having done the research. But then for this one, also a chunk of my ideas came from the folklore, the fairy folklore of saying, okay, what kinds of things existed? And that was a little bit difficult because it turns out that most of the folklore people think of when they hear about fairies, a lot of the famous things come from Ireland and Scotland, and I wanted specifically English. And so trying to find things that were going to be local to the area turned out to be very difficult. There's many fewer sources on it, a bit like trying to deal with Boudicca and there's not a lot written. But I wanted to kind of feed that in and figure out how I could work those legends into it, laying those over the Elizabethan period, which the poets at the time did themselves. There's a very long poem called The Fairy Queen, which is, among other things, the poet's attempt to curry favor with Elizabeth. So, you know, layering those two together was a thing that actually came from the period as well as from my imagination.
Alors effectivement, ce film a vraiment éveillé mon intérêt pour Elisabeth et surtout la façon dont ça montre comment on en a fait un personnage pour qu'elle puisse tenir le trône en fait. Et c'est un bon exemple d'un film où je pense qu'il y a certains faits qui sont pas bons, enfin ça c'est pas tout à fait historiquement exact. Par contre, je pense qu'on a bien et ça a bien reflété l'esprit de cette reine, comme j'ai pu m'en rendre compte après par mes recherches. Après, j'ai également essayé de me baser sur le folklore et sur les faits, mais pour moi, ça a été assez difficile parce que quand on pense folklore, souvent, on pense au folklore irlandais, écossais. Et moi, j'avais vraiment besoin de quelque chose de local d'Angleterre. Et là, ça a été vraiment difficile. Il y a beaucoup moins de sources dans ce domaine. Et c'est un peu comme faire des recherches sur Boudicca. Il y a vraiment moins de... On a moins de sources. Mais il y avait quand même certains aspects. Les poètes, normalement, notamment... il y avait un poème sur la reine fée, donc j'ai pu me baser là-dessus pour intégrer ça au roman également.
Sur les sources autres que l'histoire pure, est-ce que vous avez eu des choses qui vous ont...
Je sais qu'à Mont-Calore, il y a eu quelques remontées de souvenirs de vieux films aussi de ma jeunesse, par là plutôt des classiques avec Jean Marais, vous voyez, quand il bondit. Hein. Enfin, voilà, là oui, parce que je suis très friand aussi de films de cap et d'épée. Donc, effectivement, la garantie historique est sujette à caution. Mais enfin, pour certaines scènes, j'ai pu sans doute m'en inspirer. Oui, oui.
Et Jean-Laurent ?
Alors, je pense très peu d'influences extérieures. Il y en a quand même deux néanmoins, dont une qui n'est pas moindre. Donc, une scène qui est tirée d'un autre roman, donc Les Dames du Lac et Les Brumes d'Avalon de Marion Zimmer Bradley, où elle avait très intelligemment, je trouve, donc c'est la revisitation du mythe arthurien vu uniquement du côté des femmes, quatre paroles de femmes, et notamment il y a une scène en off qui est absolument magnifique. On a toujours l'image de Arthur tirant l'épée, et en fait là c'est quelque chose de tout simple, c'est il y a un enterrement, en fait l'épée est mise en terre avec le père d'Arthur, voilà. Et en fait il y a une attaque au moment de l'enterrement, et en fait le symbole de sortir l'épée de terre, c'est que Arthur plonge dans la tombe et sort l'épée de la pierre tombale, donc qui a enterré avec son père, pour pouvoir se défendre, et va la garder par la suite. Et de la même façon, il y a toute une symbolique sur l'épée du père de Boudicca que j'ai voulu retrouver, notamment dans cette partie onirique où elle va chercher l'épée en plongeant, et en la sortant dans la pierre, dans la vase dans laquelle elle la sort de la pierre. Voilà, j'avais cette image-là. Et voilà, deux, trois autres références au mythe arthurien. Et le deuxième point qui est plus anecdotique, mais qui a amené un fort visuel, dans un épisode de Viking, la série, il y a un moment dans la première saison, une bataille avec rien que le bouclier. Et donc je me suis dit, ça m'a interpellé, est-ce que des techniques en combat au bouclier chez les Celtes, ça pouvait être le cas ? Parce que je trouvais ça très beau visuellement de se battre, effectivement, de s'entraîner qu'avec un bouclier rond. Et non seulement oui, donc ça fait un visuel où les gens se battaient bouclier et lance, donc c'est une technique totalement différente. Ça amène un visuel de combat notamment très singulier, qui était réel en plus. Et il y avait des entraînements uniquement au bouclier. Et on va retrouver un duel notamment assez saillant et important dans le récit, celui du père et de Boudicca avec Boudicca, sur leur unique duel en face à face armé. Et ce sera au bouclier, et ça commence, où il s'appuie bouclier contre bouclier pour savoir qui va avoir le dessus. Voilà, donc il y a ce visuel fort que je voulais retrouver. Il me semble pas que j'ai jamais vu, en fait, dans un récit en tout cas de fantasy, un duel au bouclier.
Alors j'ai une question spéciale pour Boudicca. Boudicca s'appelle aussi Boadicea. Et pourquoi avoir choisi finalement Boudicca par rapport à Boadicea ? Qu'est-ce que Boadicea ? Enfin, d'où ça vient en fait ?
Boadicea, c'est un nom européanisé, francisé, lié à la Renaissance. Boudicca, c'est l'écriture celte. Et même pour aller jusqu'au bout, Boudicca, ça s'écrit parfois avec seulement un C. Donc comment choisir ? Là, il faut trancher. Globalement... De ce que j'en ai compris, il y a une raison pour le doublement du C, voilà, sur l'écriture du prénom. Donc j'ai choisi l'écriture de Boudica, qui était celte, parce qu'elle s'appelait par un nom celte et qu'elle ne s'appelait pas par un nom qui est donné 10 siècles plus tard, quoi.
Et j'ai une dernière question pour nos trois auteurs, sans trop en révéler, mais quand même. Est-ce que connaître la fin de l'histoire, la grande histoire, par rapport à vos personnages, est-ce que c'était un soulagement ou est-ce que c'était une contrainte dans l'écriture?
Non, honnêtement, ce n'est pas une question qui s'est même posée. Voilà. J'ai voulu accompagner Louis jusqu'au bout. Je sais comment je vais l'accompagner. Ce sera effectivement complètement différent de cette grande histoire. Mais ça n'a absolument pas pesé comme une contrainte dans un sens ou dans l'autre. Non.
Pour Boudica?
Alors c'est ouvertement un facilitateur. Enfin, pour moi, en tant qu'écrivain, avoir le point d'arrivée défini, vous savez que quoi qu'il arrive, ça va se resserrer en entonnoir, ça va arriver à ce moment-là. Donc c'est beaucoup plus simple et cadrant.
For me, specifically with Midnight Never Come, I had to choose when during Elizabeth's reign I was going to set the main action, because it starts with her before she's queen, but the actual events take place in the course of about 2 years. But I did realize partway through that clearly the last scene was going to need to be an epilogue with her at the end of her life and the end of her reign, because it just felt thematically right that we saw her kind of the moment at which she did something to make herself queen. It had to close with the end of that, regardless of when in that span of time the events took place.
Alors, particulièrement pour Minuit jamais ne vienne, je savais que le roman commence quand elle n'est pas encore reine. Et après, l'intrigue se déroule en gros sur 2 ans pendant son règne. Mais je savais pertinemment que l'épilogue devrait se passer à sa mort. Vu qu'on avait commencé au début de son règne, terminé à la fin de son règne, ça me paraissait juste logique, quelle que soit l'histoire.
Mais il y a d'autres tomes dans la série qui sont prévus. Donc sans Elisabeth.
Yeah, I originally wrote Midnight Never Come as a standalone novel. It was just going to be the one. And then somebody asked me what a fairy counterpart to Queen Victoria would have looked like, and my answer was she wouldn't have one, but they're building an underground with iron rails running right through the fairy court. That would probably be a problem. And so I wound up having ideas for a different book in each century. There's one. This is the 16th century, next one is 17th, 18th, 19th century. So I have fairy characters who recur from book to book, but the mortals come and go. And for each book, I picked out a kind of moment in that period of history that I thought would make for a good story.
Alors à l'origine, en fait, Minuit jamais ne vienne devait être un livre seul, hein, ça devait pas être une série. Et puis quelqu'un m'a dit, bah oui, mais si la reine Victoria, elle devait avoir une fée en miroir, comment elle serait cette fée? Je dis, alors non, ça c'est pas possible. Mais du coup, ça m'a fait réfléchir et j'ai fini par décider de faire un roman par siècle. Donc il y a la suite, il y en a un au 16e, au 17e, au 18e, 19e siècle. Du coup, les personnages des fées reviennent puisqu'ils sont immortels, mais les personnages humains changent. Et j'ai essayé de choisir à chaque fois dans le siècle un moment assez important dans l'histoire.
Un dernier mot ou c'est bon pour tout le monde? Ben, je vous remercie, j'espère que cette conférence vous a plu et à bientôt.